Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles, Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage, pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changés. Venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Philippines. Donc on revient sur Bali pour prendre ensuite un vol en destination, à destination de Manille, puis un autre à destination de Siargao, et au milieu il y a une étape à Singapour. Enfin c'est la folie, on fait un trajet avec 4 vols, et ce qui complique un peu les choses, c'est que June ne se sent pas bien. Elle commence à avoir mal à la tête, mal au ventre, et puis quand on embarque à Singapour pour aller à Manille, là, elle a la nausée quand on monte dans l'avion. Elle me dit, je me sens pas bien. Et quand on fait le premier pas dans l'avion pour embarquer, là, on ouvre un sachet pour vomir. J'ai réussi à en trouver un immédiat auprès d'une hôtesse et elle vomit à l'entrée de l'avion. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est encore en mesure de prévention Covid. On porte tous le masque, là, parce que la réglementation au niveau des Philippines, c'est de porter le masque dans l'avion. Et puis, on a déjà bien serré les fesses parce qu'il y avait des portiques de température dans l'aéroport de Manille qu'on a passé sans qu'on voit que June avait de la fièvre. Mais quand on arrive au final à Siargao, sans avoir été arrêtée, je dirais, June, elle a plus de 39 de fièvre et elle est super mal. Donc, c'est notre première préoccupation quand on arrive à notre logement après ces 4 vols de nuit, une June vraiment épuisée. On se met au lit, on se repose un peu. Moi, je lui donne des médicaments pour que la fièvre descende. Et puis, on va se faire quelques courses pour pouvoir avoir à manger dans ce Airbnb qu'on a loué pendant une semaine. Ce qu'il y a, c'est qu'on est super déçus quand le jour se lève dans ce Airbnb. Parce que c'est un Airbnb qui est en bord de plage, sauf que c'est plutôt en bord de mer. Mais devant, même si les gars qui travaillent pour le Airbnb nous disent qu'on peut se baigner, mais c'est tout caillouteux à marée basse. Et à marée haute, il y a quand même 2-3 déchets et beaucoup de bateaux de pêche, donc ça donne pas très très envie. Et puis surtout, le Airbnb, il est pourri. Il est vraiment pourri, il y a des odeurs d'égout dans les toilettes. La cuisine, elle est super mal équipée. Je crois qu'il y a 3 assiettes, 2 verres, il n'y a pas assez de couverts pour 5. Il y a des insectes partout, invasion de fourmis dans la cuisine. Et les chiens, tous les chiens du secteur qui crottent dans le jardin qui est devant chez nous. Et par-dessus tout, on le découvre vraiment dans la première nuit qu'on passe sur place, c'est qu'on a des voisins extrêmement bruyants. En fait, ce sont 2 petits Airbnb qui sont loués côte à côte et qui sont loués à des touristes locaux. Et les jeunes Philippins qui viennent en bande en week-end, donc ils louent un logement pour 5, mais ils viennent à 12. Et ils rentrent, ils sortent, que ce soit très tôt le matin ou ils rentrent tard le soir de boîte de nuit. Et ils font un bazar pas possible. L'isolation étant pas énorme dans ces maisons, pour nous c'est très décevant. Alors évidemment, on n'a pas eu des logements parfaits jusqu'à présent. Il y a toujours eu 1 ou 2 problèmes. Mais là, quand on a tous les inconvénients en même temps, ça nous met un sacré coup au moral. Mais on ne se démoralise pas. On s'occupe de June qui mettra, je crois, 4 ou 5 jours à quand même reprendre de l'énergie. Au bout d'un moment, moi, je commençais à me demander ce qui se passait. En fait, on pense qu'elle a eu une grippe, tout simplement. Et avec Daniel, on prend les scooters, on a loué des scooters dès qu'on est arrivé et on va faire du porte-à-porte pour essayer de trouver de la place dans des hôtels ou dans d'autres lieux qu'on peut louer, d'autres résidences peut-être, petites résidences hôtelières, un peu plus au nord de l'île et plus proche des spots de surf où on voudrait aller. Ça nous prend quelques heures et puis on arrive à trouver un... 2 endroits, donc on ira dans 2 logements successifs, 2 domaines résidentiels hyper sympas,
avec un emplacement bien meilleur et puis une offre de restauration sur place. Tant qu'on n'avait pas trouvé cette solution de logement, parce qu'on y passe quand même 3 semaines sur cette île de Siargao, ben, on n'était pas complètement serein, mais là, ça y est, au bout de 4 jours, on a trouvé notre solution et donc on sait qu'on peut profiter de l'île et ce qu'on fait pendant les 2 prochaines semaines et demie. Donc, on prend les scooters, on se balade, on va repérer les spots de surf. Et puis, quand on en trouve un, il y a toujours une location de surf à proximité. C'est hyper facile. Le gars, et on est beaucoup sollicité. Le gars qui loue les surfs, on négocie un prix qui est souvent très bas. Et puis, on regarde l'heure et puis on lui loue le surf pour 1 heure ou 2 heures. Et puis, c'est parti. On file à l'eau. Et puis, quand c'est fini, on lui ramène la planche et on paye. Et c'est assez marrant parce que quand on voit le contraste avec la France, où il faut donner sa pièce d'identité, parfois signer un document et ensuite marcher jusqu'à la plage pendant à peu près 20 minutes pour pouvoir surfer, alors que, et ça pour des prix qui sont peut-être 8 fois plus importants, on se dit qu'il y a quand même des pays où les choses sont beaucoup plus simples. On reprend nos repères en surf tranquillement en allant dans 2 spots différents qui sont assez faciles mais qui sont super beaux. La mer est belle, elle est chaude. On peut y passer des heures, en fait. C'est ça qui est super. Bon, il faut quand même se caler sur les marées qui permettent pas de surfer à toute heure du jour. Et puis, un jour, on décide de réserver un petit bateau, d'aller à une école de surf et réserver un bateau pour qu'il nous emmène un matin sur un pic qui est en mer. Et là, on décide d'y aller tous les 5. Évidemment, on part à l'aventure. On ne sait pas trop ce qui nous attend, mais alors on est motivé. Il y a un peu d'adrénaline. On part tous les 5 un matin. On se réveille à 4h30 parce qu'on a rendez-vous à l'école de surf qui est à l'endroit où on prend le bateau à 5h moins le quart. Une fois sur place, on prend le bateau de pêche. Il y a 2 autres surfeurs avec nous. On met à peu près 1/2 heure pour aller au spot de surf. Et là, c'est une belle et grosse vague qui déroule longuement, proche d'un gros rocher. Donc le bateau tangue pas mal, donc il faut vite qu'on y aille. La session, elle dure à peu près 2 heures, et nous on a pris cette session tôt le matin, c'est ce qu'on nous a conseillé, pour pas se retrouver avec trop de monde sur ce pic de surf. Violette et June, elles ont chacune un instructeur avec elles, et puis Daniel, Swan et moi, on est en libre. Alors, chacun y va avec son niveau. Swan et Daniel, ils y vont à fond. Ils remontent la vague pour ensuite essayer de prendre des vagues. Assez vite, Daniel prend la vague et Swan aussi. Et ils se régalent. Moi, je galère un peu. J'ai pas peur, mais je suis assez excitée. Puis je suis tellement contente qu'on partage cette activité en famille. Je me dis que c'est vraiment extraordinaire. Mais forcément, j'ai cette réserve parce que j'ai les 2 petites qui sont là et je m'inquiète un peu pour elles. J'ai peur qu'elles n'y arrivent pas, j'ai peur qu'elles ne se sentent pas bien. Et j'ai un petit peu du mal à me défaire de cette inquiétude. Finalement, je me mets dans l'ambiance quand je vois que June passe devant moi, qu'elle a pris une super vague. En fait, ce qui est génial aux Philippines et en Asie où on surfe de manière générale, en tout cas, les autres pays que la France, c'est que quand vous voulez apprendre à surfer, les instructeurs, ils sont pas là pour vous apprendre tout un tas de gestes techniques. Ils vont beaucoup vous aider au départ et vous pousser dans la vague parce que ce qu'ils veulent, c'est que vous preniez du plaisir. En fait, le but, c'est de se lever le plus vite sur la planche pour pouvoir sentir le plus tôt possible cette sensation de glisse qui est extra. Et ça, c'est génial, c'est une approche super positive. L'aspect technique, il vient après. Et donc, selon cette philosophie, June, elle prend sa première vague. Violette aussi, elle en prend une. Elle est trop contente. Puis je la vois partir loin, loin. Donc moi, ça me met en confiance. Ce qui est chouette, c'est que les instructeurs sont pas très loin de moi non plus. Et quand ils voient arriver une vague, ils me disent « Allez, paddle, 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 pop, pop !» Enfin, ils nous disent quand il faut ramer et puis se lever. Donc j'arrive à prendre une vague, mais c'est un sentiment, mais je suis transportée. Puis elle est longue, la vague est super longue, je suis tellement heureuse et fière de moi. Il y a vraiment un sentiment d'accomplissement et de pouvoir tous partager ça en famille, c'est extra. Et puis au bout d'une petite demi-heure, June et Violette, elles ont froid et puis elles s'épuisent aussi à remonter au pic en paddlant, en ramant. Et donc elles vont sur le bateau. Moi, je crains un peu parce que sur le bateau, bah, il bouge pas mal. J'ai un peu peur qu'elles aient le mal de mer et qu'elles aient froid. Et puis je me dis, bon, écoute, on est là, elles vont pas non plus mourir, ça va le faire. Sur cette deuxième partie de session, ce qui est super, c'est que les deux instructeurs alors, viennent nous aider ou nous conseiller sur les vagues. Et là, moi, j'en ai un qui il me pousse dans deux ou trois vagues. Mais c'est fabuleux. Donc, je surfe, j'ai l'impression de surfer à l'infini, au milieu de l'océan, dans un cadre dingue. Et c'est grisant. Quand on finit la session, qu'on remonte sur le bateau, bon, c'est sûr qu'on est tous fatigués. Les petites, elles commencent à avoir bien froid. Donc, on les couvre. On avait pris une ou deux serviettes dans un sac qui est imperméable. Mais on est tellement heureux d'avoir partagé cette expérience tous ensemble. Là, moi, je crois pouvoir dire que j'ai pris la plus grosse vague de ma vie. J'avais à Nusa pris une vague très, très, très longue qui avait duré longtemps, mais qui n'était pas aussi haute. Et là, c'était une vague très puissante. J'avais l'impression, et j'allais très vite. Et je suis contente de vivre ces nouvelles sensations et d'être si heureuse après avoir pas mal galéré, en fait, dans le surf. Le reste du séjour se fait de manière plutôt routinière, mais alors une routine sympa, avec travail le matin, un resto rapide le midi. On a trouvé un endroit, c'est comme une formule de cantine, c'est tout ouvert, c'est en extérieur. Il y a un buffet, on se sert de légumes, de féculents, de viande ou de poisson, et puis de dessert. Vous prenez une photo de votre assiette, et puis arrivez en caisse, une fois que vous avez fini de manger, vous présentez la photo, et là, on paye en fonction de ce qu'on a dans l'assiette. C'est top parce que c'est très varié tous les jours, les cuisinières, elles font tout, c'est tout est frais. Et en même temps, ça va vite quand on est entre deux sessions de surf, donc ça, c'est sympa. Nous, ce qu'on aime faire, c'est aller surfer en fin de journée, on arrive vers 15h30, ça nous permet de faire le coucher de soleil qui est tous les jours très beau. En début de séjour, on a eu pas mal de sessions de pluie, mais sur les 10 derniers jours, il pleut de moins en moins. On voit qu'on est en train de sortir de la saison des pluies. Et l'endroit où on va surfer, c'est hyper sympa. Il y a une bonne ambiance, il y a tous les profs de surf, là, les instructeurs ou les loueurs qui ils vous parlent, on commence un peu à les connaître. Nous, ça y est, on a notre copain à qui on loue tous les jours, qui nous fait des prix du coup à chaque fois. Il y a des petits bars de plage où on va boire des coups. Et puis il y a des concerts pour le soir de l'anniversaire de Daniel. On se retrouve à boire une bière et il y a un concert acoustique là sur un petit cabanon de plage, ouais, c'est très sympa. Il y a une ambiance détendue. Et puis ce qui est sympa par rapport à l'Indonésie, on est les Philippins sont plus forcément moins contraints par rapport à la religion et au poids traditionnel, familial, culturel. Et donc déjà là, rien qu'à l'habillement, ça se voit. Les filles sont habillées en petits shorts, en décolleté, ça pose aucun problème. Il n'y a pas, voilà, de code vestimentaire. Les gens sont plus expansifs. Ils rigolent, ils parlent fort. Ils sont beaucoup tatoués aussi. Alors, on est sur une île de surf, c'est ce qui explique peut-être cela. Mais c'est une ambiance vraiment différente de ce qu'on vient de vivre en Indonésie. Il y a beaucoup de touristes aussi, donc l'offre de restauration, elle est plus occidentalisée, en tout cas elle est mélangée à la restauration, à la culture asiatique. Et nous on se régale, on en profite pour se faire quelques bons restos et on a un coup de cœur pour un resto de ceviche qui s'appelle Ceviche, qui est juste à côté de notre avant-dernier hébergement où on va manger 3 fois, dont pour l'anniversaire de Daniel. Et ils font des ceviches de dingue, des cocktails aussi très bons et des desserts à tomber par terre, hein, des imitations de Bounty et de Snickers, mais faits maison, qui sont vraiment délicieux. Là, pour June, on voit qu'on rentre encore dans une période un peu étrange, c'est-à-dire qu'après la grande sortie en mer de surf, elle surfe peut-être une ou deux fois, ou elle va se baigner une ou deux fois, et puis après, elle décide qu'elle arrête de surfer. Elle arrête de surfer, et puis même à un certain stade, elle arrête de se baigner. Donc je crois que la dernière semaine, elle ne met pas un orteil dans l'eau. Elle a décidé qu'elle n'a plus envie de surfer, que c'est trop dur, qu'elle galère trop et qu'elle en a marre. Et puis la mer, c'est pareil, elle refuse de se baigner parce qu'en fait, nous, notre hébergement, il faut qu'on y rentre en scooter. Et elle déteste ne pas être rincée à l'eau claire pour aller à l'hôtel. Donc c'est, voilà, ça nous paraît un peu étrange, mais... Et donc elle refuse de se baigner. Donc sur la dernière session, dernière semaine, elle vient avec son livre, son e-book là, électronique. Elle bouquine, elle joue sur la plage avec les coquillages, les petits poissons, les crustacés dans les rochers. Mais elle fait la grève de la mer. Bon, on compose avec son souhait et puis son humeur. En fait, elle n'est pas de très bonne humeur, mais il faut dire qu'elle a été malade la première semaine. Est-ce que c'était le temps de récupérer? Est-ce qu'il y a autre chose? Ben, on ne saura pas trop. Moi, j'ai un peu le sentiment que c'est lié au surf. C'est qu'il y a sa grande sœur Swan qui est en train de prendre un gros niveau de surf. Et June, elle stagne et ça la frustre énormément. Et donc, je suis un petit peu triste qu'elle. Voilà, elle est assez défaitiste. En fait, June, souvent, elle baisse les bras quand elle n'arrive pas du premier coup. Et là, j'ai l'impression qu'elle a baissé les bras. Et qu'elle décide de se démarquer comme elle a toujours fait dans la fratrie. Elle se décide, bon, non, moi, mon truc, ça ne sera pas le surf. Swan, elle se régale en surf, évidemment. Par contre, ses amis commencent à pas mal lui manquer. Et puis, la difficulté qu'elle rencontre, c'est qu'on a peu de Wi-Fi où on est. C'est assez rare ou pas toutes les heures de la journée. Le réseau est très mauvais. Et en fait, c'est lié au fait que l'île a été détruite par un typhon il y a 18 mois. Donc, eux, ils se sont fait le Covid plus le typhon. Et l'île est en reconstruction. Alors, il y a une énergie, une dynamique qui est assez incroyable. On n'a vraiment pas l'impression que tout s'est effondré il y a 18 mois. Mais c'est vrai que dans les infrastructures de réseau, ben, c'est pas encore rétabli. Et elle, ça lui manque beaucoup pour être en contact avec ses copines. Et c'est vrai qu'on ne fait pas de rencontres avec des jeunes. Violette, elle est contente parce que régulièrement on peut retrouver des enfants, même sur la plage, des enfants jeunes, et puis jouent avec 3 coquillages. D'ailleurs, dans l'endroit où on loge, au restaurant, elle fera la connaissance d'une petite japonaise. Alors évidemment, elles ne peuvent pas communiquer avec la langue, mais elles vont faire du dessin ensemble, jouer avec des Bernard l'ermite. C'est hyper sympa. Mais c'est vrai que Swan, elle n'a pas ça, et ça lui manque beaucoup. En plus de notre côté, on leur met pas mal la pression pour travailler parce qu'on va retourner en Indonésie et retrouver nos copains Sophie et Pierre et on a envie de profiter des 3 semaines qu'on va passer ensemble et on va se prendre des vacances. Donc c'est vrai que nous, on avait quelque part pas de rythme semaine, week-end au niveau du travail. On travaille dès qu'on peut le faire. Donc là, à Siargao, on le fait tous les jours. On se permet peut-être une ou deux journées off, mais sinon, on travaille tous les jours. Et là, on sent que les filles, elles commencent un peu à tirer la langue. Mais en même temps, c'est important. C'est ce qu'on leur explique, c'est que derrière, on va se faire 3 semaines sans trop travailler et il faut qu'on boucle le deuxième trimestre.
On quitte Siargao pour notre deuxième séjour en Indonésie où on va retrouver nos copains. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu ? Venez écouter l'épisode 21 sur la quatrième partie de notre voyage en Indonésie. À bientôt !